c'est le genre de question générale auquel j'ai beaucoup de mal à répondre. C'est sans doute le goût de faire des choses nouvelles, ou en tout cas de ne pas être dans la répétition. Donc vous me posez une question générale, hein, je suis un peu hors sujet par rapport aux discussions de ce soir, mais c'est effectivement d'essayer, dans la mesure du possible, de trouver des chemins nouveaux. Voilà, mais donc je n'aime pas la répétition, voilà.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Maître Jean-Paul Tessonnière, avocat spécialisé dans le domaine de l'indemnisation des victimes de catastrophes industrielles, sanitaires et environnementales. Invité dans le cadre de l'UMA Café de Nantes.
Je suis des études de droit, ce n'était pas une vocation par un concours de circonstances.
Non, moi, ma vocation d'enfance, de jeunesse, c'était plutôt le journalisme. Et par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à Paris dans une situation où je n'avais pas la possibilité de travailler dans le journalisme immédiatement. Et comme j'avais une licence et une maîtrise en droit, un avocat m'a proposé de travailler avec lui. Et l'aventure a commencé comme ça, mais c'est une vocation très tardive. Les textes juridiques, en général, ne sont pas très bons. Donc, il faut bien se débrouiller avec. Et le droit, contrairement à ce qu'on pense souvent, est une matière très malléable et très flexible. On a tort de considérer que le droit est un bloc rigide et difficilement discutable. Ça fait d'ailleurs le bonheur des avocats. Mais le droit est quelque chose de très vivant et de très évolutif. C'est ce qui en fait l'intérêt, d'ailleurs. Donc, voilà, je veux dire, les textes sont ce qu'ils sont. Il leur arrive même de changer, donc ils ne sont pas immuables. Mais ce qui est précisément intéressant, c'est de faire évoluer le droit à texte constant. Les évolutions législatives interviennent régulièrement, et bien sûr, il faut en tenir compte, mais il est tout à fait possible de faire bouger l'application des règles existantes sans qu'il y ait pour autant de modifications en provenance du législateur. C'est la jurisprudence, quoi. La jurisprudence dans le domaine du droit social, du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, du droit de l'environnement est un ensemble extrêmement mouvant et évolutif. Et ce qui est passionnant, c'est précisément de faire avec cette situation, qui est une situation changeante, et de contribuer dans la mesure du possible, un petit peu, à faire évoluer les choses.
La qualité de l'orateur, de l'homme de dossier, c'est quel poids dans le résultat final, le jugement?
Je pense que être juriste, ça suppose sans doute un certain nombre de qualités, mais ce sont des professions qui ont considérablement évolué. Je veux dire que l'art oratoire tel qu'il est pratiqué aujourd'hui a très peu de choses à voir avec la façon dont on le pratiquait au début du XXe siècle. Et donc on est resté parfois un petit peu avec des stéréotypes sur les magistrats, les avocats, qui ne correspondent plus très bien à la réalité. Aujourd'hui, je pense que les qualités d'un bon avocat et d'un juriste de manière générale, c'est de beaucoup travailler et ensuite, accessoirement, de savoir se faire comprendre lorsqu'on est amené à s'exprimer devant des magistrats.
Vous connaissez Nantes un peu ?
Mal. Non, j'y suis venu quelques fois, essentiellement au palais de justice, que j'ai vu peu de temps après qu'il ait été construit, donc je suis bien il y a quelques années, j'ai pas tenu le compte. Mais je connais mal Nantes. Non, j'y suis venu, mais je le connais mal.
Louis XVI, en haut de la colonne.
Ah, lui-même !
Je vais vous faire visiter la cour du château des Ducs de Bretagne.
D'accord.
C'est notre petite contribution.
Oui, mais c'est une promenade agréable. Que je dise en gros le schéma un petit peu de l'intervention de ce soir.
Pas simplement les intituler chapitres, mais dire un petit peu pourquoi, quelle est la logique qui sous-tend tout ça.
La logique qui sous-tend tout ça, c'est une expérience personnelle, c'est ce qui fait l'originalité de ce que je peux dire. C'est une expérience personnelle qui se situe aux confins de disciplines qui souvent sont traitées séparément. Je veux parler du droit pénal, du droit de la sécurité sociale, du droit du travail. Donc si vous mettez ensemble un travailliste spécialiste de droit du travail et un pénaliste spécialiste du droit pénal, très souvent ils n'ont pas grand-chose à se dire parce que ce sont des disciplines considérées comme différentes. En réalité, je veux dire, la réalité auquel j'ai été confronté, la question des catastrophes industrielles, des catastrophes sanitaires, des accidents et des maladies contractées au travail ou dues à l'environnement, m'a amené à avoir une approche du droit qui est un peu originale par rapport à ce qui se fait habituellement et donc à confronter des disciplines qui sont en général traitées de façon séparée. Voilà, donc le point de vue c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce domaine-là très particulier qui relève du droit social globalement mais qui a à voir également avec les questions de la répression pénale, donc de la prévention, avec les questions de la protection des droits des travailleurs et des riverains des installations dangereuses, qu'est-ce qui bouge actuellement et qu'est-ce qui peut présenter de l'intérêt. Alors, le point de départ, c'est bien entendu tous les débats de ce qu'on pourrait appeler, c'est magnifique ici, là, la déconstruction du droit du travail, avec le rapport Badinter-Liancan, avec les lois Rebsamen et Macron. Et là, on assiste à quelque chose qui est... j'allais dire une révolution, mais qui est sans doute davantage une contre-révolution, puisqu'on avait une architecture d'un code de travail bâti au cours du siècle dernier notamment, qui est en train de voler en éclats et qui va être remplacée par une autre architecture dont certains aspects, il me semble, sont menaçants pour les droits des salariés et les questions même de santé et de sécurité à la fois des salariés et des riverains des installations industrielles. Voilà l'objet de la réunion, c'est d'évoquer ces questions. Pour bien comprendre les enjeux, revenir sans doute à la construction de ce droit du travail, ce droit du travail qu'on est en train de déconstruire à l'heure actuelle, il a une longue histoire qui est une histoire paradoxale et sur laquelle, à mon avis, on a commis un certain nombre de contresens. Par exemple, si on prend les origines du droit du travail et du droit de l'environnement, on pourrait faire une lecture différente de celle qui est faite habituellement en considérant que toute la création de la réglementation sur le travail et l'environnement, qui commence par un décret impérial en 1810, qui se poursuit avec la loi sur l'hygiène et la sécurité en 1893, puis sur les accidents du travail en 1898, on pourrait lire cette construction non pas comme une construction ou une protection de la santé, de la sécurité ou des droits des salariés, mais au contraire, comme une déresponsabilisation des entreprises pour tous les risques liés au travail et à l'environnement. Et donc c'est cette lecture-là également que je voudrais proposer. Ne pas voir une lecture un peu angélique du droit tel qu'il s'est construit, mais bien voir que, à de nombreuses reprises, ce droit a fonctionné très largement, au contraire, pour limiter la responsabilité des industriels et pour assurer l'impunité d'auteurs d'agissements qu'on devrait pourtant considérer comme d'une extrême gravité. Ça me conduit à une dernière partie qui est celle qui concerne le droit pénal, qui est un droit important pour la prévention en termes de risques professionnels et de risques environnementaux, et à développer une idée qu'on ne trouve pas dans le droit positif, qui est celle des crimes industriels. Je pense que à l'époque de la technologie, des installations nucléaires, des risques chimiques et cancérogènes, on a du mal à voir une réalité qui est souvent terrifiante, qui est celle des catastrophes sanitaires, donc l'amiante, 100 000 morts en France entre 1995 et 2025. C'est une tragédie de la dimension d'Hiroshima. Hiroshima, c'est 120 000 morts. L'amiante, c'est 100 000 morts en 30 ans. Mais c'est une tragédie silencieuse et invisible, c'est-à-dire on ne l'a pas vue quand elle s'est produite. Il a fallu, comme ça, que se penchent sur la question des militants, des experts, des juristes, des médecins, pour soudain s'apercevoir de ce qui était en train de se passer, et qui se passait à l'insu des victimes, et en pleine connaissance de cause pour un certain nombre de décideurs, notamment de décideurs industriels. Donc voilà, il se passe des choses extrêmement graves que le droit ne sait pas saisir, et qu'il traite sous la forme de délits de négligence ou d'imprudence, alors qu'en réalité, il s'agit véritablement de crimes organisés. Donc j'ai créé une ONG sur ces questions-là, qui s'appelle Interforum, qui milite pour la reconnaissance des crimes industriels et la création d'une cour pénale internationale pour les crimes sociaux et environnementaux, dont relèveraient des catastrophes comme celle de l'amiante, ou un certain nombre de catastrophes environnementales qui actuellement sont sont assurés de l'impunité.
L'amiante, à partir de quel moment on considère qu'un acteur industriel, un patron, un dirigeant est responsable?
Alors, 50 avant Jésus-Christ, c'est un texte de Pline l'Ancien qui classe les maladies de l'amiante parmi les maladies de l'esclave. C'est la première définition des maladies professionnelles, ça a un peu plus de 2000 ans.
Mais... Vous avez répondu, là.
Oui. C'est une façon un peu provocatrice, mais c'est vrai. Je veux dire, on trouve dans Pline l'Ancien des références aux maladies de l'amiante. Tout le monde sait que l'amiante est extrêmement dangereux. On le sait depuis longtemps. Simplement, pour la période industrielle, 1906, il y a une description par un médecin du travail des conditions dans lesquelles 50 ouvrières à Condé-sur-Noiron, en Normandie, meurent quasiment étouffées pour avoir respiré sans protection des fibres d'amiante dans une filature dans laquelle on fabriquait des tissages d'amiante, après avoir fabriqué des tissages de coton. Donc quand on les met sur le tissage d'amiante, en 5 ans, 50 d'entre elles meurent. Le risque cancérogène après concernant l'amiante sera parfaitement établi dans les années 40, 50, 60. Et donc, pour les malades ou les personnes décédées de ces dernières décennies, ces décès, ces maladies, 100 000 pour chiffrer la dernière période, sont la conséquence de choix en termes de protection et de réglementation qui ont été faits délibérément. Nous avons des documents écrits qui le démontrent. À un moment donné, on dit que ça va être trop compliqué de faire comme les Anglais qui ont pris une réglementation protectrice pour les salariés. Nous, on n'arrivera pas à le faire, ça nous coûtera trop cher. Et donc, on va faire l'impasse sur les cancers. C'est-à-dire qu'on fera une réglementation qui baisse les maladies classiques de l'amiante, les fibroses pulmonaires, mais par contre qui ne sera pas suffisante pour prévenir les cancers. On l'écrit d'ailleurs à l'époque parce qu'on a un tel sentiment d'impunité qu'on pense pouvoir avoir la liberté d'écrire des choses pareilles. Et donc on écrit « cette réglementation ne permettra pas d'abaisser le nombre des cancers ». Et le résultat de ce choix délibéré, c'est 100 000 morts entre 1995 et 2025. Nous avons déposé plainte il y a 20 ans contre les responsables de cette catastrophe industrielle sans précédent. L'instruction est toujours en cours à l'heure actuelle. Et on vient d'avoir cette semaine une expertise ordonnée par les juges d'instruction pour savoir quel était le processus physiopathologique de l'amiante et quels étaient les risques encourus, ce qui paraît, quand on connaît un petit peu le dossier, un tout petit peu aberrant compte tenu de l'accumulation des connaissances scientifiques qui existent depuis maintenant des dizaines d'années.
C'est une question de temps et de longtemps pour arriver à faire condamner les personnes. 20 ans, c'est énorme.
Oui, si vous voulez, une catastrophe judiciaire vient se surajouter à une catastrophe industrielle. Donc on est dans une situation complètement aberrante. Mais je crois qu'il y a une réticence du monde judiciaire à examiner les questions concernant les chefs d'entreprise en termes de responsabilité. Alors, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles il y a autant de réticence à considérer qu'un crime est un crime. Le droit pénal a été conçu avant la première révolution industrielle, et se saisit assez bien de questions concernant les rapports interindividuels. J'ai un couteau, je le plante dans le dos de mon voisin, je suis un assassin. Ça, le droit pénal sait reconnaître la victime, on le voit bien, celui qui a le couteau dans le dos, et l'assassin, c'est celui qui vient de frapper. Quand on tue quelqu'un, une personne, on se débrouille assez bien avec ça. Quand, comme les industriels, on met en place un processus, un système de production mettant en jeu un matériau extrêmement toxique, dont on sait qu'il va tuer, dans certaines usines, pratiquement un salarié sur deux ou un salarié sur trois, c'est-à-dire des dizaines de milliers de personnes, eh bien là, on est dans l'incapacité de considérer que celui qui délibérément, pour des raisons de profit et de bénéfice, a mis en place ce système pathogène, doit être considéré comme un criminel. Là, il y a une... Et si vous voulez, on relie les notions classiques du crime à ce que Spinoza appelait les passions tristes, c'est-à-dire la colère.
Nous accompagnons dans la rue Maître Jean-Paul Tessonnière, avocat, invité dans le cadre de l'UMA Café de Nantes.
« on relie les notions classiques du crime à ce que Spinoza appelait les passions tristes, c'est-à-dire la colère. Or, les gens qui sont les auteurs de ces crimes industriels ne sont pas du tout en colère et n'ont pas du tout même l'intention. S'ils pouvaient s'épargner les victimes qu'ils font, ils le feraient. Mais ils ont un choix à faire, c'est ou bien utiliser ce procédé ou alors y renoncer. Et à partir de là, sauver la vie des personnes qui seraient exposées au risque, eh bien, ils décident délibérément, malgré tout, d'utiliser le procédé en question. C'est des crimes d'indifférence, voilà. Et ça, c'est une sorte d'oxymore. C'est-à-dire, les gens n'ont pas l'habitude de considérer qu'un crime est dû à l'indifférence. Le crime est dû à la colère, à la haine, à la jalousie, etc. Mais quand il s'agit d'un crime d'indifférence, comme c'est le cas pour les crimes industriels, on est incapable de penser la responsabilité pénale des auteurs. Je crois que c'est une difficulté qu'il va falloir que les juristes, à un moment donné, franchissent.
L'amiante, c'est pas le bon exemple pour avoir la réponse que je cherche. Imaginons qu'un employeur impose à tous ses salariés d'utiliser le téléphone mobile. Si on s'aperçoit qu'il y a des conséquences, à partir de quel moment on considère qu'un patron, un dirigeant est responsable ?
Un des éléments essentiels, c'est bien entendu la connaissance du danger. Je veux dire, tout ne relève pas de la responsabilité et tout ne relève pas de la responsabilité pénale. Il y a des événements dans la vie, dans le monde, qui relèvent de la tragédie et qui ne sont pas, je dirais, maîtrisables de ce point de vue-là, et donc qui ne relèvent pas de la mise en œuvre de la responsabilité. Le problème de l'amiante, et je reviens quand même à cette question pour répondre à votre exemple, à l'heure actuelle, on ne sait pas pour les téléphones portables, il y a quelques études qui laissent des doutes, mais dans des proportions qui n'ont rien à voir avec la dangerosité d'un certain nombre de produits comme l'amiante. Et donc, le problème pour l'amiante, c'est que quand on a utilisé de façon massive dans l'industrie et dans le bâtiment, on était parfaitement informé, on pouvait calculer le nombre des victimes. D'ailleurs, ça a été fait. Aux États-Unis, les industriels ont calculé combien il y aurait de victimes, combien leur coûterait l'indemnisation des victimes. Ils ont calculé que les bénéfices qu'ils en tireraient étaient supérieurs à l'indemnisation qu'ils devraient payer, et ils ont continué à empoisonner les gens. Donc on est là dans des actes dont j'insiste sur le fait qu'ils sont des actes conscients et délibérés. Si ça n'était pas le cas, alors dans ce cas, on ne serait pas dans le registre de la responsabilité pénale. L'une des questions du débat, c'est ce que j'appelle les crimes industriels. Il y a une caractéristique, il y a une spécificité des crimes industriels, c'est qu'ils sont des crimes sériels, des crimes massifs. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que l'industrie produit des victimes comme elle produit des marchandises, d'une manière répétitive, sérielle, sur le même modèle. Ce sont toujours les mêmes maladies qui interviennent quand on utilise un produit déterminé, etc. Donc il y a quelque chose qui est dans la production des victimes par l'industrie, qui relève de la spécificité de l'industrie. Voilà. Donc c'est le caractère massif qui me fait penser qu'il y a là quelque chose d'original et de sans précédent que, jusqu'à présent, le droit n'est pas parvenu à saisir.
On porte plainte contre qui ? Contre une personnalité morale ou des personnalités physiques ?
On peut porter plainte contre X en laissant le soin à l'enquête de déterminer les responsables. On peut déposer plainte, comme dans l'affaire de l'amiante nous l'avons fait, contre des directeurs généraux de ministères, contre des industriels participant à un lobby particulièrement actif qui a servi à étouffer la réalité et à capturer le discours scientifique sur l'amiante pour le déformer. On a déposé plainte dans ce dossier contre des industriels déterminés et contre des experts d'ailleurs qui avaient contribué à cacher le problème, mais également des représentants des pouvoirs publics qui ne l'avaient pas géré comme il l'aurait dû.
Et on ne peut pas condamner un système, le système capitaliste par exemple. qui est responsable.
Oui, mais sans doute, je pense qu'il n'a pas la personnalité morale et donc je vois là une difficulté juridique difficilement franchissable. Mais on va y réfléchir.
Peut-être que ces directeurs sont victimes du système.
Ça se plaide, hein, en tout cas. Les circonstances atténuantes, ça marche aussi parfois.
Nous accompagnons dans la rue Maître Jean-Paul Tessonnière, avocat, invité dans le cadre de l'UMA Café de Nantes.
Sur les crimes industriels, je faisais le parallèle entre la production des victimes et la production des marchandises. Ce qui est fascinant, c'est que même pour produire des victimes, l'industrie recourt à l'innovation. Elle invente des maladies qui n'existent pas à l'état naturel. Le cancer de la plèvre pour l'amiante est une maladie qui n'existe pas à l'état naturel, qui a été inventée par l'industrie et dont seuls sont victimes les travailleurs de l'amiante dans les industries de l'amiante. La silicose est une invention du marteau-piqueur. Je veux dire, il a fallu qu'on invente le marteau-piqueur pour extraire le charbon dans les mines pour que apparaisse la silicose. Lorsque les mineurs travaillaient dans les mines avec un pic simplement, la silicose n'existait pas. Donc il y a une dimension industrielle qui apparaît dans toutes ces tragédies qui est une caractéristique extrêmement forte.
On va revenir sur le droit du travail. Vous dites, on est en train de détricoter.
Autant il est possible de faire un inventaire de la situation actuelle, autant il est extrêmement difficile de faire des propositions et des projections vers l'avenir. Je constate qu'on est en train de défaire des situations de relative protection, hein, parce qu'encore une fois, tout ça est extrêmement ambigu, et que ce qu'on va mettre à la place est certainement beaucoup plus dangereux et créateur de difficultés à l'égard des populations actuelles de salariés. Donc voilà, après, une première chose serait de peut-être de ne pas porter atteinte aux situations existantes à l'heure actuelle avant d'avoir pensé ce que pourraient être des situations de substitution pour l'avenir. Mais voilà, après, la question reste ouverte. Les propositions pour l'avenir sont beaucoup plus difficiles à faire que l'analyse du présent.
On parlait de droit du travail.
Oui.
Est-ce que pour vous, il faut le réécrire ?
Bon, il est tellement compliqué que ce serait une bonne chose. Il faudrait le simplifier déjà.
Ouais.
C'est la première chose que j'ai à dire. Mais bon, c'est tout en fait. Oui, je pense qu'il est à revoir le droit du travail. Le rendre plus libre. Voilà.
C'est-à-dire ?
C'est trop compliqué. Un accord entre l'employeur et les employés, ok, mais au bon vouloir des uns et des autres. Et non pas avec des règlements stricts et compliqués. Voilà.
Ça c'est bien pour vous, un droit du travail compliqué.
oui, mais pas. Non, mais
il est... Je pense qu'il fait un livre entier. Hein.
Oui. Non, mais on entend beaucoup de choses sur la complexité du code du travail, qui est vrai, je veux dire, c'est une réalité. Mais en réalité, on s'aperçoit que plus on veut déréglementer, et plus on en rajoute. Lorsque la retraite était à 60 ans, on avait des règles simples des départs à la retraite. Maintenant, on a fait en sorte que les gens partent beaucoup plus tard. Comme certains employés sont soumis à des contraintes liées à la pénibilité du travail, il faut calculer des points de pénibilité pour leur permettre, à certains d'entre eux seulement, de partir un petit peu plus tôt ou un petit peu moins tard à la retraite. Et donc on ajoute 200 pages au code du travail qui auraient été parfaitement inutiles si on n'avait pas touché à l'âge de départ à la retraite. Donc tout ça est très ambigu. Je veux dire, moi je constate que plus on libéralise les règles et plus on essaie d'enlever des contraintes au marché du travail, plus on complexifie le code du travail. Donc
On rajoute toujours des couches, mais on n'enlève jamais. Exemple, les conducteurs de train, hein, qui ont le droit, je pense, je ne sais pas si ça existe toujours, mais ils avaient droit, eux, à une retraite à 55 ans pour pénibilité. Mais oui, ça c'est, on va dire, il y a un siècle dernier, oui, maintenant, non, tout est... Enfin bon, bref, hein, on ne fera pas le monde. Hein.
Et vous travaillez ?
Non, je suis en retraite.
Là. Et vous étiez dans quel
dans
secteur ?
L'architecture.
L'architecture ?
Oui, oui. Et c'était aussi avec des règlements existants et non existants, on va dire. J'ai eu les deux parties. Hein. J'ai été employé et employeur. J'ai eu les deux. J'ai préféré employé, vous voyez. Et de beaucoup. On va dire, le statut est quand même beaucoup plus souple. Et on met toujours tout sur le dos des patrons. Voilà. Patron cochon, patron qui se met le fric dans les poches. Voilà, le statut patron, c'est une horreur en France. Hein. Si j'ai des patrons actuellement, je partirais. Je ne resterais pas en France. Parce que le patron, il est écrasé de charges, de tout. Et puis, le temps de travail, là où un employé actuellement, bah, c'est 30, 35. Hein, non, il demande les 30 heures maintenant. Où allons-nous ? On va dire que les professions libérales, bah, elles en travaillent. 60, c'est déjà pas mal. C'est léger pour une profession libérale, je vous assure.
Dans un monde moderne, la qualité de vie, ce serait de travailler moins.
Ben voilà,
mais tout le monde, et le partager ?
Non, mais à ce moment-là, oui. Que les patrons aussi travaillent moins. On appelle les cochons de patrons, n'exagérons pas. Il y a des limites à tout, quoi. S'il n'y avait pas de patrons, il n'y aurait pas d'employés. Alors, j'entendais hier un CGT là, à la télé qui râlait... Les employés sont des exploités, mais où allons-nous ? Tout le monde ne peut pas être patron, entre guillemets. Enfin bon, bref, je vais m'arrêter là parce que... je vais m'arrêter là.
je travaille, oui.
Est-ce que vous vous sentez bien protégé en tant que salarié ?
Oui, je me sens relativement capable d'appeler des protections qu'il faut. Je dirais, il y a celles qui sont régulières qu'on a autour du système social. Et puis, je dirais qu'en cas de coup dur ou de crainte, il y a aussi, soit par la voie syndicale, soit par d'autres voies, des capacités de soutien ou de conseil. Alors, la protection, après, je dirais, tout dépend du sujet duquel on doit se protéger. Entre un souci social ou une kalachnikov, c'est pas la même chose.
Et vous pensez que le droit du travail, par exemple, est bien adapté ? Ou il faudrait le réécrire un petit peu, tout ou partie ?
Alors, est-ce que j'ai une opinion bien ferme sur la chose ? Ça, c'est pas certain. Je sais qu'effectivement, il a des atouts, il a des complexités. Je suis pas sûr que, d'ailleurs, parfois, certaines... Enfin, je pense à un cas très précis où le fait, par exemple, d'exempter le SMIC de charges sociales, ça a plutôt conduit à donner plus d'emplois salariaux au SMIC, sur ceux qui ne l'étaient pas forcément. Donc le Code du travail, ça fait des choses, ça ne fait pas tout, je crois. Hein, donc je crois que c'est un ensemble plus général qui doit être, je dirais, soutenu ou développé. Mais je pense qu'un Code du travail, c'est quand même absolument nécessaire. Je dirais, s'il n'y en a pas, c'est une vraie difficulté. On voit bien dans les États où on est plutôt sous la politique du petit salaire ou du post-salaire ou sans limite, on est quand même dans des situations qui sont souvent excessives.
Ce code du travail est au service de qui ? Il est au service du travail, de l'employeur ou du salarié ?
Je crois que ça dépend comment on s'en sert ou comment, en quoi il est utile. Je pense qu'il a des vertus et des vices pour les uns et les autres. Donc, c'est finalement un système qui est assez ancien, sur lequel il y a des évolutions, parfois dans un sens, parfois dans un autre. Moi, ce que je peux parfois regretter, c'est pour avoir pratiqué, professionnellement dans d'autres pays, je pense au Canada, il y a des moments où il y a quand même des systèmes où, la parité est quelque part organisée davantage par le gouvernement, par l'État, quoi. Enfin, ça a été vrai dans le temps. C'est-à-dire qu'il y avait des temps où on essayait d'éviter d'arriver au temps de confrontation. Et ça, je pense que, comme ça ne se fait pas naturellement dans notre pays, c'est peut-être dans cette voie-là qu'il faudrait aller voir comment on pourrait encourager quelque part des échanges plus réguliers pour que les uns et les autres, non pas se ménagent, entre guillemets, s'écoutent. Et puis aussi sur le fait qu'il y a un moment, il faut avancer, je pense, ça profite à tous.
J'écoute avec attention, je partage beaucoup de ce qui a été dit. Je pense qu'il y a actuellement, on a une remise en cause un peu systématique du Code du travail comme étant une espèce de monstre qui étouffe les entreprises. C'est pas exactement la réalité. Alors, par ailleurs, il y a sans doute des complexités qu'on pourrait éviter, mais on pourrait éviter ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est que la complexification du Code du travail est intervenue surtout lorsqu'on a voulu revenir en partie sur un certain nombre d'avantages dont bénéficiaient les salariés. Je pense à l'exemple de la retraite dont on parlait tout à l'heure, où on a compensé un départ retardé à la retraite à des âges parfois un petit peu avancés pour des professions exposées à des travaux pénibles, et il a fallu le compenser par un système de compensation qui est une espèce d'usine à gaz. Et donc on a considérablement augmenté le Code du travail alors qu'on aurait pu éviter ce type d'inconvénients. Donc je suis... Les discours sur la complexité du Code du travail sont souvent très ambigus.
Est-ce que dans votre famille, dans votre entourage, vous avez connu des personnes qui sont ou qui ont été victimes de l'amiante ?
Non.
Non. Ou une maladie professionnelle, lui à l'exposition
Mon père, je pense qu'il est parti suite à une maladie professionnelle, mais dans un temps, on n'appelait pas ça comme ça.
Quel métier exerçait votre père ?
Il travaillait dans l'énergie nucléaire. Donc effectivement, dans ces temps-là, les soutiens ne sont pas nombreux quand on arrive au pied d'un mur que personne n'a encore escaladé. Et même les voies ordinaires par la justice sont difficiles à emprunter, quoi.
Et là, vous n'avez pas eu le réflexe d'aller consulter un avocat ?
Si, je suis même allé en justice. Il y a un seul syndicat, quelque part, a pris position sur un ensemble. Bon, je m'en suis reconnaissant. Mais c'était il y a plus de 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait un peu différent.
Merci à Maître Jean-Paul Tessonnière pour sa libre participation à ce magazine réalisé dans le cadre de l'UMA Café de Nantes.